Merci beaucoup. Nous allons donc ouvrir une session de questions-réponses, mais compte tenu du temps, je vais prendre une question à droite, une question à gauche, et on va se rendre aussitôt à Goma pour reprendre aussi d'autres questions. Et bien sûr, nous encourageons, me souffle M. Martin Kobler, les femmes à poser des questions. Est-ce qu'il y a une femme à droite? Ah bon? C'est souvent la même femme, mais bon, c'est... Bon, allez-y, présentez-vous votre question, une question, hein, et ensuite on passera à gauche. Merci.
Merci pour la parole, Mariam Boya pour Télé7. Ma question s'adresse à Martin Kobler. Vous venez tout à l'heure de dire que vous félicitez l'amnistie. Alors, 15 éléments seulement de l'ex-M23 ont été amnistiés. Et les autres de ces éléments réclament l'amnistie générale. Ne serait-ce pas une occasion pour ces ex-rebelles de relancer les hostilités?
Voilà, merci bien pour cette question. Je félicite que c'est le début maintenant. On a 700 éléments ex-combattants au Rwanda, presque 700, 680. On a presque 1500 ex-combattants du M23 en Ouganda. Les 15, ce sont un début. C'est un début maintenant de la mise en œuvre. Je vous rappelle que l'amnistie, selon la loi, c'est une amnistie individuelle. Ce n'est pas une amnistie d'un groupe de M23. Ce sont toujours des amnisties individuelles qui doivent enregistrer ce qu'on appelle acte d'engagement. C'est un début, mais c'est seulement un début. Je félicite le début, mais on a beaucoup de travail à faire parce qu'on a beaucoup plus de gens qui doivent être repatriés. Parce que c'est très important maintenant d'agir vite, parce que ces gens sont en Ouganda depuis le mois de novembre. Et il faut maintenant vraiment mettre en œuvre les déclarations de Nairobi, d'avoir ces actes d'engagement et de promouvoir le processus de repatriement au Congo.
Question à gauche. Oui.
Philippe Longonia pour la RTGA. Ma question, je voulais parler de la situation entre la RDC et le Congo-Brazza où il y a beaucoup d'expulsés. Et aujourd'hui, peut-être que vous ne pouvez pas me répondre en tant que MONUSCO, mais en tant que fonctionnaires internationaux qui sont devant moi. On viole, on expulse les gens sans toutefois respecter leur dignité humaine. Et ce sont des Congolais, les Congolais pour qui vous êtes ici en RDC pour les sécuriser quelque part, les protéger. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation, du point de vue des droits de l'homme, du point de vue des fonctionnaires internationaux que vous êtes?
Voilà, je ne peux pas vous répondre en détail, mais avec toutes les actions comme ça, les droits de l'homme doivent être respectés. Alors, c'est un principe qui est très très clair. Avec les déplacés internes, les réfugiés, les expulsés, on a aussi d'autres problèmes avec d'autres pays limitrophes. Les droits de l'homme doivent être respectés selon les pactes qu'on a.
Scott, rien à ajouter. On va aller à Goma, s'il vous plaît, et ensuite on reviendra ici à Kinshasa. Goma, deux questions.
Ok, merci. On va donner la parole à Norbert, qui a demandé la parole avant tout le monde, et à RTG. Voilà.
Merci pour la parole. C'est Norbert Ndoula pour la radio-télévision Graben. Les autorités de Kampala étaient prêtes à collaborer avec celles de Kinshasa pour livrer les non-amnistiables du M23. Est-ce que c'est la République démocratique du Congo ou son collaborateur, la MONUSCO, qui traîne encore le pied sur ses actions?
La question, je ne l'ai pas bien comprise. Hein,
les actions de quoi? Des ex-M23.
La question, c'était... Est-ce que
je disais les autres...
Allez-y.
Je disais les autorités de Kampala ont montré la volonté de collaborer avec celle de Kinshasa pour livrer le non-amnistiable au du M23. Est-ce que c'est les autorités de Kinshasa ou son collaborateur, la MONUSCO, qui traîne encore le pied pour livrer ces éléments du M23?
Voilà, j'ai compris votre question maintenant. Moi-même, j'étais à Kampala il y a 2 semaines. J'ai parlé avec les autorités par là sur 2 questions. La première question, en ce qui concerne les ex-M23, ce sont ceux qui sont amnestiables. Et c'est un processus que j'ai expliqué d'avoir les actes d'engagement. Mais deuxièmement, quoi faire avec ces éléments qui sont non amnestiables. Les déclarations de Nairobi sont très très claires sur ça. On a les amnesties pour les actes de rébellion. On n'a pas les amnesties pour ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des violences sexuelles et ont été impliqués dans les enfants soldats. Ils ne peuvent pas être amnestiés, ils doivent faire la justice. Et je sais que les autorités congolaises sont en contact direct avec les Congolais, avec les Ougandais, avec les autorités ougandaises. Nous sommes informés sur ça et c'est un processus qui est très très important de clarifier avec les listes de ceux qui ne peuvent pas être amnestiés. Ce que j'ai dit, il faut vraiment promouvoir ce processus aussi de clarifier ces listes et d'amnestier ceux qui peuvent être amnestiés et de discuter sur le sort de ceux qui ne peuvent pas être amnestiés.
Deuxième question à Goma.
Tout vert de la RTNC, après on va commencer.
Tout vert de la RTNC, une préoccupation vient de l'explication de Martin Kobler tout à l'heure qui encourage l'investissement. Mais on sent que les investissements durables passent par de bonnes routes. La MONUSCO a promis 11,4 km à Goma. L'axe aéroport-centre-ville reste impraticable, mais là, cet axe-là a été donné à la MONUSCO. Qu'est-ce qui bloque?
Voilà, merci pour cette question. Maintenant, l'infrastructure, c'est très important pour la stabilité, pour la sécurité, pour le transport des produits agricoles, pour créer le cadre pour les investissements. Maintenant, mais pour vous dire, et je vous rappelle, toujours la résolution 2147. La première responsabilité pour le développement de ce pays, c'est le gouvernement, c'est pas la MONUSCO. On assiste. Alors les questions qui doivent être discutées, c'est avec le gouvernement, quoi faire avec les axes. On assiste ici, on a ces 11,4 kilomètres qui seront rebâtis pour restaurer l'état des routes. Je suis tout à fait d'accord avec vous et moi aussi je suis très impatient que ça ne marche pas assez vite, mais ça doit être planifié. C'est maintenant pas une question d'argent, c'est une question d'avoir les contracteurs et de mettre en œuvre ici les plans. Ça doit être plus vite. Je fais, en ce qui concerne la responsabilité de MONUSCO, je prends la responsabilité, je parle avec mes collègues, je viens à Goma une fois par semaine, vous le savez, et je suis impatient comme vous avec la route à l'aéroport, de l'aéroport. C'est partiellement notre responsabilité. Nous avons compté les voitures. On a 1200 voitures par jour de la MONUSCO qui passent par cette route. C'est pourquoi nous avons la responsabilité aussi de réparer cet axe-là. Mais les autres axes sont aussi importants. C'est Mbao Nobili, dans le territoire au nord, parce que c'est important pour le développement. C'est au sud Kivu. C'est l'axe de Eringeti et Beni à Goma. C'est Valikale Goma. Alors ce sont les projets que nous avons. Ce sont les projets que je discute avec le gouvernement d'investir sur les axes, parce que c'est la condition pour les investissements ici dans le pays, pour le transport des produits agricoles des territoires qui sont libérés maintenant à Goma.
Retour à Kinshasa, question quelque part au milieu là. Généralement, les gens qui sont en bordure ont toujours droit aux questions.
Oui, mais merci voilà, pour la question. Collègue, vous m'excusez, Albert Omban, America TV. Monsieur Kobler, vous avez eu des entretiens avec Monsieur l'abbé Malumalu. Vous avez évoqué le problème où vous avez dit qu'il y a 3 piliers sur lesquels vous allez vous baser. Et vous devez... La MONUSCO doit apporter son appui logistique, matériel, et vous avez dit que vous allez faire les bons offices. Est-ce que la MONUSCO va se substituer à la justice congolaise pour régler les contentieux électoraux? Est-ce que la MONUSCO va aussi faire tout pour concilier les conflits qui devaient exister avec le parti politique pour les élections. À vous, monsieur.
Merci pour cette question. La MONUSCO ne va pas substituer personne et rien. Alors, c'est la responsabilité de la CENI. C'est une commission indépendante pour organiser les élections, pour introduire les lois. Pour maintenant, on a la discussion sur les lois électorales. Je vous explique notre position et ce que nous pouvons faire. La première chose, c'est d'avoir de bonnes relations avec tous les partis, de la majorité présidentielle, aussi de l'opposition, et ça s'appelle bons offices. Si on a des problèmes ici, nous, si les partis le désirent, les partis nous demandent alors, est-ce qu'on peut discuter ces problèmes? Nous avons nos principes ici. C'est la constitutionnalité, la transparence, et ce sont les principes électoraux. Mais toutes les autres choses, alors ce sont des affaires domestiques du pays de le faire. Nous sommes toujours prêts à discuter si on a des problèmes, des divergences d'opinion entre opposition, majorité, entre la CENI ou l'opposition et tout ça. C'est ce qu'on appelle bons offices. Ça ne veut dire pas de remplacer quelqu'un, c'est d'assister, de soutenir et d'essayer ensemble avec vous, avec les forces politiques, d'avancer le processus électoral. Deuxièmement, c'est l'assistance technique. Alors, c'est très très important parce que tous les gens, tous les interlocuteurs me disent, alors à 2011, c'était pas tellement parfait avec l'assistance technique. On a pas bien, beaucoup de gens qui sont traumatisés par ce qui s'est passé dans le terrain logistique en 2011. L'assistance technique doit être faite par le PNUD, mais il faut le financer. Mais aussi ça, ce n'est pas un remplacement du gouvernement. Les élections coûtent cher. Notre participation, en ce qui concerne l'assistance technique, doit être financée. Troisième piste, c'est la logistique. C'est très difficile dans ce pays, mais on peut le résoudre. Mais, encore une fois, on prend le temps. J'étais en Irak, j'étais en Afghanistan, ce sont des pays très difficiles. En ce qui concerne la sécurité, mais aussi la logistique, ça peut marcher, mais avec une organisation, et ça prenne du temps. Ça prenne du moins 7-8 mois d'organiser logistiquement de telles élections.
Je sais que nos auditeurs de Radio Okapi vont nous quitter bientôt, mais nous allons poursuivre un peu cette conférence de presse ici avec nos différents invités. Je rappelle que nous avons l'équipe pays qui est avec nous toujours, Humanitaire Développement, le général Wafi, le rapport mensuel sur les droits de l'homme et bien sûr notre invité Martin Kobler. On va donc continuer ici avec une question sur la gauche. Oui, allez-y.
Merci. C'est Serge Mukendi pour le compte du journal Congo, Wetu, et pour le journal télévisé, le journal de la ville. Ma question s'adresse à M. Moudingaï, c'est à propos de camps de déplacés du Nord Kivu. Parce que le gouverneur de cette province là continue à évoquer le cas de déplacer, disons, d'évacuer tous les camps autour de la ville de Goma. Alors, je voudrais savoir est-ce qu'il y a des contacts avec le gouverneur pour pouvoir mettre tous ces gens-là dans des bonnes conditions ou qu'est-ce qui se passe jusque-là? Parce que c'est à l'actualité, c'est évoqué jusque-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est pris comme mesure pour pouvoir mettre tous ces gens-là dans des bonnes conditions ou leur trouver d'autres lieux.
Merci. Sylvestre, quelques éléments?
Oui, un peu comme je l'ai dit, répondant à une question d'un de vos confrères à Goma, comme je l'ai dit mercredi dernier, que le gouverneur décide de fermer le camp, c'est tout à fait dans ses prérogatives, mais je vous disais aussi qu'il y a des préalables pour ça. Et je vous ai aussi dit que même si ces camps doivent être fermés, ça se fera en concertation avec la communauté humanitaire, parce que la communauté humanitaire travaille en concertation avec les institutions et nous travaillons, on vous l'a toujours dit, en appui aux institutions de la République démocratique du Congo. Et parmi les questions qui se posent comme préalable pour la fermeture des camps, je vous ai dit qu'il fallait s'assurer des conditions de sécurité vers les lieux de retour, s'assurer que les zones de retour sont sécurisées. Je vous ai dit que le retour également devrait être volontaire. On ne va pas forcer les gens à retourner. Et en plus, on doit définir un certain nombre de choses qui doivent constituer le paquet retour de ces personnes déplacées, parce que vous savez qu'il y a des personnes qui vont rentrer vers des localités où parfois des maisons ont été incendiées, des champs ont été ravagés. Il faut s'assurer que quand ces personnes arrivent, le temps de reprendre la vie normale, ils doivent disposer d'un minimum de vivres ou des articles ménagers essentiels qui leur permettent de tenir pendant un temps avant de pouvoir reprendre leur vie normale. Si les camps doivent se fermer, je vous ai dit, ça se fera en concertation avec la communauté humanitaire. On est en contact avec les responsables provinciaux à ce sujet-là.
On va prendre une question à Goma avant de revenir boucler la conférence de presse ici avec une ou deux questions. Goma, tout d'abord, une question.
Vincent de Sifia.
Oui, c'est Vincent de Paul pour le compte de Sifia. Ma question s'adresse au général Abdallah. Il est connu que les habitants de Badegayo, Salat et Zara Lamban sont en train de fuir la localité pour se diriger vers Mambasa par crainte de représailles de Maïmaï, des Morgans qui voudraient venger la mort de leur chef. Quels sont les dispositifs de sécurité pris par la MONUSCO pour tâcher de renforcer la sécurité de ces pauvres habitants?
Général Wafi.
Voilà, c'est la question pour le général Wafi, oui, qui est l'expert sur ça.
Oui, merci bien. D'ores et déjà, vous savez, dans le cadre de ces événements-là, nous avons nous-mêmes, au niveau de la MONUSCO, envoyé des équipes sur le terrain pour aller faire l'évaluation et pour essayer aussi d'avoir le maximum d'éléments par rapport aux événements qui sont déroulés. Nous avons aussi, avec la brigade de l'Ituri, déjà déployé une compagnie temporairement dans la zone de Epoulou, compte tenu des menaces qui se profilent à l'horizon, parce que, comme vous le savez, ces éléments, dont les 42 qui sont rendus avec Paul Sadala, dont on est encore en attente de les voir à Bounia, et cela, naturellement, a donné un coup d'arrêt au processus de reddition de l'ensemble de tous ces Maïmaï. Maintenant, il faut essayer d'abord de rassurer par les l'enquête qui sera menée et de situer les responsabilités et ensuite maintenant de reprendre langue avec ces éléments de ces groupes armés pour continuer à les encourager à se rendre, parce que c'est cela d'abord qu'il faut faire pour vraiment rétablir la confiance qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a été rompue par cette opération malheureuse qui a coûté la vie à Paul Sadala Dimorgan. Voilà.
Retour à Kinshasa, question sur la droite au milieu, quelque part au milieu là.
Merci. Deux préoccupations, comme le général Wafi est là. Mon général, vous avez parlé de Paul Morgan mourant. Le site de Radio Capi, citant le porte-parole intérimaire, a parlé de Morgan mort, qui a été livré à la MONUSCO. Je ne comprends pas cette contradiction. Et mon général, je voudrais m'adresser au secrétaire général, au représentant du secrétaire général. Quand il est parti à New York, au Conseil de sécurité, il a parlé des éléments du M23 qui se préparaient à attaquer la République démocratique du Congo. Et quand le général Wafi est allé, il avait même promis qu'il ferait une descente avec les journalistes à Kampala, mais ce n'est pas encore arrivé. Je ferme la parenthèse. Mais enfin, quand vous êtes allé là-bas, vous avez trouvé des gens démobilisés qui n'attendaient que l'amnistie. Maintenant, on a amnistié seulement 15. Monsieur le secrétaire général a parlé d'un début. Attendons peut-être la fin.
Alors, merci pour ces deux questions. La première, en ce qui concerne l'état dans lequel est arrivé Paul Sadala Dimorgan à la base opérationnelle de la MONUSCO de Komanda. Je crois que vous le savez, notre équipe médicale d'urgence qui a été envoyée de Bounia dans l'hélicoptère pour aller récupérer tous les blessés, quand ils sont arrivés, l'état de Morgan était, il était pratiquement mort. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas un médecin, je n'ai pas fait le constat de décès. Mais les urgentistes se sont mis à essayer de le réanimer parce qu'ils ont du matériel de réanimation. Y compris quand ils l'ont transporté dans l'hélicoptère, ils ont continué les massages cardiaques, ils ont continué leurs efforts. Mais après, ils étaient obligés de constater et de le déclarer mort. Donc, je crois que le plus important dans cette affaire, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il est mort au pied de l'hélico, dans l'hélico, un peu avant, un peu après. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est de faire la lumière sur les événements. Comment il est arrivé avec criblé de balles pendant plus de 4 heures de temps entre Molokai, Epoulou, Mambasa et Komanda. L'enquête, la justice militaire déterminera les responsabilités, situera les circonstances de ces événements-là. Donc pour l'instant, je ne voudrais pas me prononcer par rapport à cela. Mais encore une fois de plus, je constate que vous aimez vraiment la polémique puisque vous mettez en cause les déclarations du représentant spécial devant le Conseil de sécurité par rapport aux éléments du M23 et mes propres déclarations quand je me suis rendu moi-même à Kampala pour le faire. Alors naturellement, par rapport à ces faits, c'est vrai, il y avait des informations qui nous parvenaient sur la possible réorganisation des éléments d'effet du M23. Suite à ces éléments, nous avons été formellement invités par les autorités ougandaises. J'ai moi-même conduit une forte délégation de la MONUSCO, comprenant M. Scott Campbell des droits de l'homme ici, et d'autres cadres. Nous avons rencontré les autorités militaires ougandaises, nous sommes partis en Barara, nous avons rencontré le commandant de la région militaire de Barara, qui est frontalière avec la République démocratique du Congo. Nous sommes ensuite allés au camp de Bianga, où nous avons rencontré les officiers d'effet de ex-M23, ainsi que leurs hommes de troupes. Nous avons échangé avec eux, et à la suite de cela, les autorités ougandaises nous ont demandé de mettre en place un processus pour que ces éléments-là puissent être rapatriés en RDC et bénéficier de la loi d'amnistie. Mais comme vous le savez, à l'époque, déjà, c'est un processus qui est complexe. Il fallait voter la loi d'amnistie. Aujourd'hui, c'est fait. Il fallait avoir l'arrêté d'application. Aujourd'hui, c'est fait. Il fallait avoir les formulaires individuels des actes d'engagement. Aujourd'hui, c'est fait. Alors, je vous parle, dans moins de 2 heures de temps, je vais rencontrer M. François Mwamba pour que le chronogramme qui a été établi pour le rapatriement de ces gens-là puisse être fait. Et donc, je n'exclus pas à la suite de ces différentes rencontres qu'enfin la délégation puisse aller en Ouganda et commencer le processus. Et là, je vous réitère encore ma promesse, je vais vous inviter à m'accompagner à Kampala avec les éléments congolais pour pouvoir procéder à ce rapatriement. Je vous remercie.
Dernière question.
Justement, pour ajouter, alors vous vraiment aimez la polémique, et c'est bien, moi aussi.
Non. Mais vous êtes informé.
Voilà. Non. Mais alors, l'image sur Morgan est très, très claire. Il était en état mourant quand il est arrivé. Et pour ajouter ce que le général Vafi a dit, nous avons une procédure standard médicale de continuer les ressuscitations, les massages cardiaques, 30 minutes, même si on convaincu une personne est morte. Voilà, on continue 30 minutes avant l'hélicoptère, pendant le transport, dans les 30 minutes, même si vous êtes convaincu. Je suis très heureux sur ce règlement, ici, cette procédure standard médicale. Deuxièmement, je n'ai jamais dit que les M23, au mois de janvier, sont en train, comment est-ce que vous avez préparé une attaque contre eux. Non. On avait les indications qu'ils font l'entraînement, qu'ils pourraient envoyer les éléments encore en RDC. Alors, c'est une grande différence. Imaginez, vous étiez les M23 dans des camps en Ouganda. Maintenant, 3, 4, 5 mois là. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pourquoi nous devons agir vite. C'est pourquoi je suis heureux que le général Vafi prend charge maintenant d'aller sur le chronogramme avec François Mamba, d'avoir maintenant ce processus de mise en œuvre. Nous travaillons tous
pour la paix ici et pour la stabilisation, pour la réconciliation, pour le repatriement, la réconciliation des éléments ex-M23 ici dans le pays.
À qui la dernière question sur la gauche? Non, la dernière question, on avait dit. Il est bientôt 15, je crois que le général Wafi et M. Oui. Martin Kobler ont un programme assez chargé. Dernière question, présentez-vous.
Honoré Mbenga, une question. Agence Presse Associée, APA. Ma question est destinée à Sylvestre Moudingaï. S'agissant de la catastrophe d'inondation au Katanga, est-ce que vous disposerez un bilan en termes de perte de vies humaines, parce que vous n'avez pas fait allusion à cet aspect? Merci.
Merci. Sylvestre.
Ce que je peux vous dire maintenant et tout de suite est que, par exemple, pour le...
Restez assis, hein, sinon...
Pour le cas de Kalemi, nous n'avons pas eu de rapport comme quoi il y a eu des décès. Des quartiers sont inondés, il y a des gens qui ont quitté leur quartier, qui sont... d'aller s'installer ailleurs. Pour le cas de Bukama et de Mitwaba, je vous ai dit qu'il y a une mission qui est arrivée là-bas aujourd'hui. On avait déjà ces chiffres de 14 000 personnes sans abri à Bukama et à Mitwaba. Des missions sont arrivées là et sont là en ce moment en train de faire l'évaluation de la situation. Dès que la mission sera terminée, on pourrait vous donner exactement le nombre de personnes sinistrées. Et s'il y a eu des décès, on pourra vous le dire.
Merci. Merci à Sylvestre et merci à tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Très bonne semaine à tous. Merci. Merci.